Vous êtes sur RTL.
Auront la parole.
Pascal Pro sur RTL.
C'est Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, qui a évoqué hier une question un peu sociétale, quasi éthique, de politique générationnelle. Et effectivement, on en arrive à cette question. Est-ce qu'on est en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? Et Léonore, qui a 22 ans, c'est important de le préciser, dit oui. Pourquoi dites-vous cela, Léonore?
Oui, déjà, je voulais dire non, en fait. Donc,
c'est pas la même chose.
Voilà, effectivement. Bon. Donc déjà, Pascal, merci de m'avoir contacté parce que c'est bien les étudiants et seulement les étudiants qui peuvent en parler. Donc moi, personnellement, je suis pour qu'on améliore la situation actuelle des étudiants, ce qui peut paraître un choix égoïste, je vous l'avoue. Et pourtant, moi, la première dans mon entourage, j'ai des personnes à risque et des personnes âgées auxquelles je tiens. Et je serai la première affectée s'il leur arrivait quelque chose. Et c'est aussi de notre responsabilité à tous de prendre soin de nos anciens et des plus faibles. C'est notre responsabilité morale et collective. Mais la vraie question qui se cache derrière tout ça, et c'est peut-être un peu cru ce que je vais vous dire, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'il vaut mieux préserver des personnes en fin de vie en EHPAD ou celles des jeunes qui se suicident à cause de la situation actuelle? Parce que... je pense que ces mêmes personnes n'aimeraient pas qu'on se prive de notre jeunesse, parce qu'on a une vie à vivre. On a un moment où tout se construit socialement, intellectuellement, et c'est pour ça qu'on a besoin d'interagir. Sauf que là, on est tous démotivés par ce qui se passe, on est démoralisés. Moi, autant je suis en Master 1, j'ai eu le temps de profiter, de découvrir comment fonctionnait la fac, tant au niveau du travail que de la vie étudiante. Mais je pense aux premières années qui, à 17-18 ans, se retrouvent à l'université sans pouvoir apercevoir un quart de ce que ma génération a pu vivre. Et voilà, je pense que personne ne peut se mettre à la place des étudiants parce que c'est la première génération à vivre ça.
Mais oui, mais alors vous trouvez qu'on sacrifie la jeunesse ou pas?
Ah bah oui, clairement.
Bah, donc le oui que vous avez dit au départ, ensuite vous avez dit non, en fait c'est le oui.
Ah oui, en fait c'est le oui, pardon.
Bah oui, j'essaie peut-être la question est-elle mal posée d'ailleurs.
Oui,
hein. Est-on en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? Vous dites oui, on est en train de sacrifier la jeunesse.
C'était oui, complètement. D'accord. Moi, c'est que j'allais
poser dans l'autre sens. Bon, Léonore, voilà, ça s'entend. Mais ce qui est drôle, et je le disais tout à l'heure, parce qu'on voit bien que les choses changent. Cette question, j'aurais sans doute pas voulu la poser au mois de mars ou avril. Vous voyez, elle était quasiment impossible à poser dans ces termes-là. Et puis, chemin faisant, les esprits manifestement sont prêts aujourd'hui à entendre des choses qu'ils n'étaient pas prêts à entendre il y a un an, parce qu'on se rend peut-être compte qu'on est dans une situation qui n'a pas de fin.
Ah oui, totalement.
Puisque les variants sont là, le virus est là, et que il y a un moment, il va falloir y aller.
Oui, là, ça parle plus de mois, mais d'années, quoi. Donc, ça fait un peu peur, et donc évidemment.
Vous avez vos grands-parents, Léonore?
Oui, bien sûr, j'ai ma grand-mère.
Alors, vous avez 22 ans, donc votre grand-mère, elle est sans doute jeune encore, elle doit avoir 70 ou 75 ans.
Elle vient d'avoir 90 ans.
Ah oui, effectivement. Donc, elle est assez âgée. Et elle est autonome?
Oui, elle est très autonome et en très bonne forme.
Mais alors quand vous allez la voir, par exemple, vous faites très attention ou en ce moment vous n'allez plus la voir?
Alors en ce moment elle est chez mes parents, donc moi j'habite pas loin de chez mes parents, donc si je vais la voir. Mais oui, évidemment, je fais attention, je mange à l'autre bout de la table, je mets mon masque.
Et qu'est-ce qu'elle pense de tout cela, votre grand-mère? Qu'est-ce qu'elle dit?
Ben, je pense qu'elle est triste de voir que sa petite fille, elle peut pas profiter de sa vie. De voir que j'ai fait cours à distance, elle rencontre pas sa promo. Enfin, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de grands-parents et pour beaucoup de parents qui en parlent entre eux et qui se disent que on est un peu sacrifiés, quoi, que la jeunesse, c'est aussi un peu l'avenir. Enfin, c'est le futur. Et voilà, eux, ils ont déjà vécu leur vie, quoi, quelque part.
Ben oui, c'est ce que vous dites, et effectivement. C'est une forme de bon sens, oui. Quand tu as 90 ans, tu as effectivement déjà vécu ta vie. Bien sûr, Léonore. Merci beaucoup, vous pouvez rester avec nous. Vous êtes étudiante en master droit. Marie-Agnès est là, Marie-Agnès qui a un âge différent de celui de Léonore.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, mais je suis encore jeune puisque je ne fais pas partie des tranches à vacciner en priorité.
Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Léonore, qui avait, me semble-t-il, un peu de bon sens?
Elle résonne excessivement bien et je vois qu'elle a beaucoup d'affection pour sa grand-mère. Bon, moi je suis grand-mère. Hein. Je trouve, si vous voulez, oui, qu'on est en train de sacrifier la jeunesse. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on fasse une guerre de générations, de choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut rouvrir les facs, qu'il faut tout rouvrir. Parce que, si vous voulez, il faut qu'on fasse une, on va pas pouvoir rester comme ça 10 ans à confiner, je reconfine, je déconfine, et puis il faut que les jeunes, ben surtout ceux, comme elle dit, qui sont en première année, j'ai des petits neveux et des petites nièces qui sont dans ce cas-là, qui sont en absence de cours et autres, et je pense que, mais tout le monde a besoin de vie sociale, tout le monde a besoin de contact. Tout le monde. Et je trouve, si vous voulez, d'abord, moi, Delfrécy, je l'écoute plus, il ferait mieux de se consigner lui-même, il va avoir 73 ans le 18 mai 40, il est du 18 mai 48. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que, c'est vrai, je fais partie de cette génération, je suis née en 48, hein. Je suis, du baby boom. On a eu une belle vie. On a travaillé, moi, j'ai travaillé jusqu'à 63 ans, on a eu une belle vie. Je ne veux pas que l'on sacrifie la jeunesse. Et je ne veux pas non plus qu'on sacrifie l'économie du pays. Donc, les vieux, ils ont du bon sens. Hein. On a du bon sens. On fait très attention. Moi, quand j'ai mes petits-enfants, je mets mon masque. Mais qu'on laisse vivre la jeunesse, qu'on les laisse retourner et qu'on laisse repartir l'économie. Qu'on arrête cette espèce d'hygiénisme. C'est ça ce qu'on veut, on peut dire,
oui.
Ce terme-là ?
Hygiénisme, oui. De effectivement, tout sanitaire.
Oui, qu'on arrête. De toute façon, du jour où on sait qu'on va vers sa mort.
Oui.
Hein, on le sait.
Oui,
le sait
mais
bien.
Quand on a 20 ans, c'est assez abstrait.
Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis là, pour moi, l'imbécilité, c'est ce que j'ai dit à votre collaborateur, ce que j'ai dit à Olivier, l'imbécilité, c'est de vacciner les vieux. C'est pas les vieux qu'il faut vacciner, c'est les jeunes. Nous, moi, de toute façon, je trouve que c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Aller vacciner des gens qui ont 4... Je suis désolée pour la grand-mère de... C'est Léonore.
Oui, mais c'est eux qui vont dans les hôpitaux, et c'est une manière de les préserver,
et oui,
forcément.
Mais attendez, et la canicule? Quand on les a pas soignés, ils ont fait combien de morts chez les vieux, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, partout?
On vaccine les personnes les plus fragiles parce que c'est elles qu'on retrouve
personnes les plus fragiles. Moi, j'ai une petite nièce qui est trisomique. Elle fait pas partie des gens prioritaires pour être vaccinée. Bon, ce qu'il faut vacciner, c'est les gens... J'ai des amis, là. Hier, j'ai vu des copines que j'avais pas vues depuis un an, tellement on a pris nos précautions. Il y en a une qui a un mari qui a un cancer. Et pour le moment, il est toujours pas sur les listes prioritaires. C'est les gens qui sont malades. Vous avez des gamins de 20 ans ou de 30 ans qui ont des cancers. C'est ceux-là qu'il faut vacciner. C'est les jeunes, c'est ceux qui font partie de la vie économique, c'est ceux-là qu'il faut vacciner.
Je suis d'accord avec vous, mais il me semble qu'il faut vacciner ceux qui sont en réanimation et qui sont statistiquement les plus fragiles et ceux qui peuvent mourir, tout simplement. Puisque dans ces cas-là, on évitera nos hôpitaux en tension, c'est ça le raisonnement.
Oui, mais ça, s'il y avait une politique de... On ne va pas revenir là-dessus, c'est une politique correcte, on n'avait pas restreint les lits d'hôpitaux.
Je suis d'accord avec vous, mais les gosses de 20 ans, ils ne sont pas majoritaires en réa. Donc on vaccine ceux qui vont en réa. On vaccine ceux qui vont en réa, prioritairement, en
oui,
réanimation.
D'accord.
C'est pas une mauvaise stratégie.
Moi je suis pour vacciner tous ceux qui sont pour la vie économique.
Ben, faut vacciner tout le monde. Merci en tout cas Marie-Agnès. Je salue Greg Garanoni. On fait l'émission ensemble depuis toute la Bonjour période Covid. Bonjour Greg. Et en fait, cette émission, elle est formidable parce qu'elle donne la couleur de l'opinion. On voit bien aujourd'hui que depuis, je sais pas si c'est 15 jours ou 3 semaines, il y a une sorte de basculement et on l'entend chez les auditeurs. Parce que comme chacun comprend que ça va durer très longtemps et plus longtemps qu'on imaginait, j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez aussi Greg,
je le partage, c'est vrai,
que les gens ne posent pas exactement aujourd'hui sur cette épidémie le même regard qu'ils posaient encore en septembre, octobre ou novembre.
Et même de la même façon, hein, en septembre, octobre ou novembre, on n'avait pas le même regard qu'en mars. Et à chaque fois, on a l'impression
qu'il y avait plus de continuité. Là, j'ai l'impression qu'il y a une rupture depuis 15 jours, 3 semaines à travers les auditeurs que nous entendons. Qui disent, effectivement, ça va s'installer longtemps. Donc, les solutions ne sont peut-être pas les mêmes. Il est 13h10, on va marquer une pause. Vous allez peut-être nous faire une playlist, parce que c'est vendredi. Alors, bien comme sûr. On parle des jeunes et des vieux, est-ce que vous allez nous faire une playlist avec des jeunes et des vieux dans les chansons?
Pourquoi pas? Je peux même vous en proposer une tout de suite.
Allez-y.
Dans son vieux, par-dessus râpé.
C'est mon vieux.
C'est mon vieux.
Non, mais vous voulez nous faire pleurer, là. Cette chanson a fait pleurer tout le monde. 13h11, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Est-on en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? C'est une question qui a le mérite d'être directe. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Peut-on réellement choisir entre sauver la santé physique de nos aînés et préserver la santé mentale des plus jeunes? Rappelez-vous, hier dans l'émission, Gilles, 85 ans, lançait un appel pour protéger en priorité la jeunesse.
J'étais prêt à donner ma vie pour sauver les jeunes. On fait une fixation depuis déjà pas mal de mois d'ailleurs, sur les vieux de plus de 70 ans. Mais réfléchissez un petit peu, monsieur, nous avons vécu à 80 ans et 85 ans ou plus. On a plus que vécu, on a été heureux de vivre. C'est un manque de réflexion de la part des gouvernants et surtout un manque de courage de dire que les vieux ont vécu. Tant pis si on meurt. Si... Bon, écoutez, allons, soyons raisonnables.
Est-ce un sujet, une question, un tabou dans nos sociétés, écrit Elisabeth sur la page Facebook de l'émission. Pourtant, il est plus logique de parler de l'avenir d'un jeune que celui d'une personne âgée. Notre jeunesse ne sortira pas de cette crise économique en une ou deux années. La solidarité doit se faire dans les deux sens. Pour Nomis, la priorité maintenant, c'est nos enfants. Carole, qui a 67 ans, je dis stop à tous ces confinements, couvre-feu. Chacun doit prendre ses responsabilités. Quel avenir allons-nous offrir à nos jeunes? Des diplômes au rabais, une planète à bout de souffle? Mais pauvre jeunesse, soupire Catherine, si tous ces étudiants ne supportent pas les contraintes sanitaires, ça nous promet une belle génération. Ce n'est pas nous qui organisons des rêves parties, des rassemblements le vendredi soir pour faire la fête. Nous souffrons tous. Pas question, au contraire, de mise au placard, s'énerve Monique. Et réaction de Benjamin à l'instant, nous les plus jeunes, nous sommes obligés d'attendre le vaccin. Certains sont en première ligne face au Covid, les anciens devraient au moins s'autoconfiner.
Laurent, on va peut-être appeler Benjamin Sportouche avant 14h30
nous
pour
pouvons.
Avoir quelques indiscrétions quand même de ce reconfinement. Que nous dit-on se prépare-t-il? Et surtout, quand le président va-t-il parler? Est-ce dimanche? Est-ce lundi? Ça serait bien de l'avoir.
Nous
sommes avec Serge. Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Qui habite la belle ville d'Angers.
Oui, enfin, juste à côté. Voilà. Donc moi, je suis... Je boue.
Vous boue.
Quand j'entends
vous
tout ça... quand j'entends tout ça... Les vieux. Alors déjà, la personne d'avant, on ne dit pas les vieux. On dit les personnes âgées. D'accord ? Ça, c'est un manque de respect total. Moi, je suis écœuré. Mais vous savez, il y a une chose qu'on pourrait faire, c'est simple. On prend une piqûre et puis on zigouille tous les vieux, comme elle disait, dans les EHPAD. Comme ça, le problème, il va être réglé.
C'est un peu... Mais vous pensez que c'est ce qu'on dit ?
Ben si, exactement, c'est ce qu'on dit à mots cachés. Mais c'est incroyable, quoi.
Mais pourquoi vous dites ça? On dit pas ça du tout.
Mais laissons-les vivre, laissons-les mourir tranquillement, protégeons-les, ensuite protégeons les personnes fragiles. Au lieu de s'en prendre aux personnes âgées ou n'importe quoi, prenons-en au gouvernement qui n'a pas été foutu, capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est tout. Et moi, on devrait mettre les gens qui disent faut pas s'occuper des vieux et puis protéger la jeunesse. Mais on devrait dire ça à quelqu'un qui a eu 20 ans, 15 ans en 1940.
Mais d'abord, il y a de l'écho. Je ne sais pas où vous êtes. Vous êtes où, monsieur
Serge? Je suis dans mon camion. Il n'y a pas trop d'écho.
Mais vous êtes en... Comment dire? Vous êtes en... Comment ça s'appelle?
Ah non, j'ai l'écouteur à l'oreillette.
D'accord.
C'est-à-dire
que vous faites le procès à certains de dire des choses qu'ils ne disent pas. Donc, évidemment...
Ah non, à demi-mot. Ils le disent à demi-mot.
Mais non, est-on en train de... Enfin, Serge, est-on en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? C'est ça, la question... Mais ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ne dites pas qu'on veut envoyer les vieux.
C'est quoi un an de leur vie?
Mais c'est pas un an. Mais vous n'en savez rien, Serge, ça peut être 10 ans.
Et alors? Non, attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On va être vacciné dans 6 mois au maximum, tout le monde sera vacciné en gros à peu près.
Je l'espère.
Va retomber, etc., etc. Mais dites ça à quelqu'un qui a eu 15 ans ou 20 ans en 1940. Eux, on leur a volé 5 ans de leur vie. 5 ans! Est-ce qu'ils nous ont pété des câbles comme ça toutes les 5 minutes? Oh, ben je suis en dépression parce que je peux pas aller en cours. Mais ça va, quoi. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout. Ils ont Internet, ils ont leur bagnole pour aller en cours. Faut ceci tout de suite. La génération du tout de suite, c'est bon, c'est fini. Alors moi, je suis un vieux con, j'en ai rien à foutre.
Mais non, vous êtes pas vieux, vous avez 63 ans.
Ouais, mais mes propos, c'est si, par rapport à la plupart des gens qui écoutent.
Serge, au-delà de ça, il y a plusieurs choses qu'on dit là-dedans. Il y a évidemment le moment, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas aller en cours, mais il y a l'avenir qu'on leur propose. C'est-à-dire qu'à partir...
Mais l'avenir, il n'est pas si dégueulasse que ça.
Sauf que...
Comparé aux études qu'on a eues, excusez-moi, mais bon, ça n'a rien à voir, hein.
Bon, bah, vous êtes pas. Attendez, vous avez pas. Vous avez 63 ans. Vous avez que je sache.
Ouais, j'avais pas. Quand j'ai fait mes études, j'avais pas Internet, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas la génération du tout de suite. On savait attendre, on savait lire, on savait ce que c'était qu'un livre. Aujourd'hui, bah.
Serge, vous n'êtes pas dans les générations les plus malheureuses du XXe siècle. Pardonnez-moi de vous le dire.
Pas du tout.
Moi non plus, d'ailleurs.
On a
eu cette chance. Vous avez échappé à tout. Vous avez échappé à tout.
Je suis comme un malade, je suis routier, oui. Je sais ce que c'est que d'être emmerdé depuis des mois
Serge,
et des mois, et je fais avec.
Je suis d'accord, Serge, mais vous avez échappé à toutes les guerres du XXe siècle, donc
oui,
vous n'êtes pas le plus malheureux.
Non, mais j'ai entendu mon père qui a fait la guerre, qui est venu, qui a été en camp, etc. Donc moi, ça me fait doucement rire, les gens qui se plaignent.
Les plus jeunes, d'abord, c'est comme, vous savez... Quelqu'un qui vient de se casser la jambe, si vous lui dites il y a des gens qui ont un cancer en stade terminal, ça changera rien pour lui, vous voyez. Faut bien comprendre, faut prendre en compte sa souffrance, le moment qu'il est en train de vivre.
Bon. L'empathie envers les autres, on en fait quoi aujourd'hui? Il n'y en a plus. Bah non, il n'y en a plus. Envers les personnes âgées, il
n'y
en a plus. Il
n'y
a plus d'empathie, qui
crève. Voilà. Personne ne dit ça, Serge, enfin.
Bah non, mais c'est le sentiment que je ressens.
Bah oui, mais vous le ressentez, c'est pas.
Dans leurs EHPAD.
Mais personne ne dit ça. On dit simplement que les jeunes, donc au-delà du moment qu'ils vivent, qui est douloureux, parce que c'est incontestable, handicape également leur avenir parce que leur diplôme, ça va être compliqué.
Ils vont perdre un an.
Mais non, pas que ça, Serge.
Mais si, ils vont perdre un an.
Bon, donc pour vous, pour conclure et synthétiser, vous trouvez que la politique du confinement et du tout sanitaire est la bonne politique?
Moi, non. En plus, il me zigouille mes vacances. Je devais partir samedi, je pars plus parce que pour être confiné à partir de mercredi, c'est foutu. Non, je dis pas ça. Je dis que j'en sais rien, moi, tout confinement ou.
Ah non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez bien un avis? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas?
Oui, je pense aussi qu'il faut se protéger les uns les autres. Moi, quand je vois les gens dans mon petit village qu'il y a 15 jours, je faisais un petit repas à 15 personnes le dimanche, sans masque, sans rien, bah, je me dis, bah oui, c'est sûr que les Français...
Vous avez fait ça?
Non, pas moi, mais mes voisins, ouais. Mais moi, quand on dit que les Français sont sages, je vois pas trop, hein.
Ils le sont assez. Bon, en tout cas, merci Serge, parce que vous avez c'est intéressant de parler avec vous, parce qu'il y a de la vie. Et on n'est pas d'accord, c'est ça qui est intéressant, quoi. On n'est pas d'accord. En tout cas, on vous apporte la contradiction. Merci beaucoup, Serge. Et puis nous, j'espère que Greg Caranoni, qui nous avait mis tout à l'heure une petite chanson pour les vieux, si j'ose dire, ou les personnes âgées.
Mais attention, vous allez vexer Serge. Hein.
Mais le mot vieux, il me gêne pas, moi. Il me gêne pas. Je trouve pas ça péjoratif de dire les vieux. Par exemple, j'aime pas les seniors. Je trouve que c'est.
C'est poussiéreux.
Oui, c'est poussiéreux. Ça ne me gêne pas de dire les vieux. Je trouve que c'est un joli mot, vieux, mais bon.
Vous voulez une chanson avec...
des jeunes, là, quand
jeune.
Même.
Ouais. Ça ne va pas vous plaire. Hein.
C'est quoi? C'est qui chante ça?
16. C'était en 1999.
Mais qui est-ce?
16.
16?
S-A-E-Z.
Louis?
Non, c'est le nom du groupe. Hein.
Non, parce que Louis XVI, c'est plus gros.
Très bonne vanne.
Benoît XVI. Ah ben... C'est intéressant notre discussion, elle est éthique, elle est sociétale, elle est morale. Le président du conseil scientifique a évoqué hier cette question. Est-ce qu'on sacrifie la jeunesse pour préserver les plus anciens? Tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Bonjour Jocelyne qui habite dans le Loiret.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Oui, j'ai 72 ans, vous m'acceptez quand même.
Ah ben ça y est, vous allez me faire passer pour le racisme anti-vieux.
Non, pas anti-vieux. Moi je suis pas vieille, j'ai 72 ans et je suis pas vieille.
Ben bien sûr, mais qui dit ça?
Ben parce que je connais des gens de 30 ans qui sont très vieux.
Oui, vous avez raison. Ouais. Vous avez raison, l'âge c'est souvent dans la tête, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Et j'ai la chance d'avoir une bonne santé. Et puis là, on m'expédie carrément, j'ai l'impression depuis quelques temps qu'on m'expédie vers l'autre monde.
Pourquoi vous dites ça?
Mais parce que par ces 65 ans, maintenant on fait partie des vieux. Voilà. Moi, j'ai connu mes grands-parents à 50 ans, c'était des vieillards, bon, et tout ça. Maintenant, à 65 ans, on n'est pas vieux. Non, mais j'appelais surtout pour le monsieur hier, parce que ça m'a fait hurler de rire. Et j'étais contrariée que vous soyez d'accord et que vous le preniez en exemple, ce monsieur qui dit, bon, moi, j'ai 85 ans, ça y est, j'ai fait ma vie. Écoutez, si je meurs, eh ben voilà, je meurs. Mais voyez, ce monsieur, je pense qu'il pense mourir, pendant son sommeil ou quelque chose sans souffrir. Parce que moi, j'ai vu des gens dans ma belle famille, il y en avait plein, ils étaient tous comme ça. Oui, mais nous maintenant, on passe 80 ans, on a 75 ans, on a 80 ans, place aux jeunes. Et bien ces personnes-là, quand ils voient la mort arriver, quand ils sentent qu'ils ont quelque chose qui pousse, quelque chose qui ne va pas bien, et bien ce sont les premiers à courir ventre à terre chez les médecins. Personne n'aime la mort.
Mais oui, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Mais si, le monsieur hier...
Oui, mais il dit quoi, le monsieur? Il dit, j'ai 85 ans,
oui,
il y a des priorités,
oui,
j'ai fait ma vie, bien sûr,
oui,
et effectivement, une mort n'est pas égale à une autre mort.
Non.
Une mort de 85 ans, c'est pas la même chose qu'un gosse de 20 ans. Voilà ce qu'il dit.
Ça, c'est sûr. Ah, ça, il a tout à fait raison.
Vous êtes d'accord avec... Vous êtes d'accord avec lui?
Non, je ne comprends pas les personnes qui disent « Oh ben moi, la mort, maintenant, j'ai fait mon temps. La mort peut venir, c'est pas vrai, la mort fait peur. »
Et quand lui, il le vivait peut-être différemment que vous. Il avait peut-être...
Oui,
il était sincère.
Il allait faire son bridge, peut-être qu'il pensait que ça pouvait lui arriver, une crise cardiaque, quelque chose, un truc comme ça. Mais il y a des gens...
Il y avait une certaine philosophie. Et puis, je vais vous dire quelque chose, il n'a pas le même âge que vous.
Philosophie, c'est facile, Pascal. Moi aussi, on peut l'avoir, cette philosophie. Moi, j'ai une personne dans mon entourage qui est très jeune et qui a un cancer. Moi aussi, je dis, bon Dieu, je prendrais bien ta place si ça pouvait m'arriver et tout ça. Mais bien sûr, on a toute cette philosophie. La jeunesse n'a pas à mourir. Les gens jeunes n'ont pas à mourir. Il faut les protéger. Il faut les vacciner. Bien sûr qu'il faut les vacciner, ces jeunes. Mais moi, ça me fait rire quand une personne, mais quel que soit l'âge, mais en général, les personnes âgées, disent, ah, ben oui, mais moi, maintenant, ça y est, j'ai fait mon temps. Non, on a peur de la mort. Et ce monsieur, je lui souhaite de mourir pendant son sommeil, qu'il ne se voit pas mourir un jour.
Non,
s'il
mais
était
bon.
Malade, s'il
c'est pas exactement
malade.
Notre débat. Convenez que c'est. Bon, j'entends. D'abord, il n'a pas le même âge que vous. Hein, 85, c'est pas la même chose que 72.
Mais 72. Moi, j'ai 72 ans.
Oui.
72, 85, 90, 95. On ne fait plus la différence. Moi, je le vois quand je fais des courses.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que moi, j'ai juste un petit problème à un genou et j'ai un mal, j'ai du mal à me baisser. Si j'ai fait tomber quelque chose l'autre jour, j'ai dit à un jeune monsieur, est-ce que ça vous ennuie de me ramasser ça? Il m'a dit, les vieux, ils nous franchissent jusqu'au bout.
Bon, c'est pas très intelligent et c'est
non.
même très bête, cette
non.
réponse qu'il a apportée.
Non.
Et vous, si vous draguez comme ça dans les supermarchés, c'est
non,
pas non plus.
Pas. Ah, écoutez, j'étais mariée 50 ans avec un bipolaire, je peux vous dire que ça m'a soigné du mariage. Hein. Là, je peux vous dire. Là, jusqu'à la fin,
si vous attirez les petits jeunes dans les supermarchés en disant est-ce que tu peux me ramasser,
non,
s'il te
non,
plaît, mon
petit. Non, enfin, un petit jeune, pour moi, c'est un petit jeune, il avait la 40.
Bon oui, mais c'est bête ce qu'il a dit, il y a toujours
oui, bête,
ça arrive parfois, c'est bête et méchant, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Avec vous et délicat, il ne l'a pas été.
Non, c'est mais ça, c'est pas rare. Hein.
Bon, mais c'est pas notre question. Notre question, est-ce que vous trouvez qu'on est en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? C'est ça notre question,
je sais. Alors, je trouve que... moi j'ai eu 20 ans un jour et si on m'avait dit tu ne sors pas, j'avais un père qui était sévère, j'arrivais toujours à me débrouiller pour sortir.
Vous n'avez pas de chance entre le mari bipolaire et le père sévère.
Moi, Maria, c'était une passation de pouvoir, hein, j'ai l'impression. Le père sévère et le mari bizarre.
Si vous me permettez, sans faire de psychanalyse, il y a peut-être un rapport de cause à effet, mais bon, je ne veux pas entrer dans le détail de votre vie sentimentale.
Non, j'avais un mari qui n'a pas évolué, c'est tout. Il est resté dans la vieille génération, c'est tout. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il faut préserver la jeunesse. Mais
oui.
il faut l'écouter. Il faut vraiment, vraiment, vraiment l'écouter.
Voilà.
Je crois qu'on en fait un petit peu trop quand même.
Pour
on
la jeunesse
démerdé, nous. On s'est démerdé, nous. Quand on était à l'école, moi je me rappelle, j'avais dit à mon père, je voudrais un Solex, il m'a dit travail. Voilà. Oui, mais les jeunes maintenant, on leur donne. Bon,
c'est moins, c'est sans doute moins rigolo d'avoir 20 ans aujourd'hui qu'avoir 20 ans dans des années plus légères. Oui. Ne serait-ce qu'où il y avait, par exemple, du job. Je suis désolé de vous le dire. Moi, je suis arrivé sur le métier du travail. Par exemple, dans mon métier, c'était sans doute plus facile en 88 de commencer à la radio, à la télé qu'aujourd'hui. Parce qu'il y avait plus de places peut-être disponibles et moins de gens sur le marché, me semble-t-il.
Oui, peut-être. Bon, c'est vrai que lorsqu'on était jeune, enfin que moi j'étais encore plus vieille que vous, mais quand j'étais jeune, on n'avait pas peur de quitter un travail. On quittait le travail à midi, à 14h. Mmh. On avait une autre société qui nous intéressait tout ça. Mais la jeunesse, il faut l'aider.
Je suis d'accord, mais il y a des choses qui sont plus faciles, qui étaient plus faciles. C'est vrai que je me souviens qu'on pouvait faire des piges à 15, 16, 17 ans. Aujourd'hui, tout ça. Aujourd'hui, tout ça est plus difficile, me semble-t-il. Bon,
oui,
Jocelyne. C'est fini. Vous voulez une petite chanson, Jocelyne, parce que c'est vendredi.
Alors, ne foutez pas du Daniel Guichard.
Vous voulez pas?
Non, mettez-moi Queen, par exemple.
Comment?
Queen.
Queen. Queen. Bah oui, mais Queen est-ce qu'il y a
laquelle vous ferait plaisir, Jocelyne?
Barcelone, avec la cantatrice qui est décédée, que j'ai plus son nom. Maria. Montserrat Caballé. Voilà, je le dis dans le mauvais ordre.
Non,
mettez-nous des chansons comme ça, mais ne nous mettez pas Guichard. Si les maisons de retraite vous écoutent, cet après-midi, il va y avoir des suicides. Là, c'est pas possible. Mettez-nous des chansons gays. Notre génération, c'est des chansons gays, c'est du rock and roll.
Ma génération, c'est Loving You. Une chanson, c'est tout.
Oui, c'est sûr, mais
bon.
Vous savez, les maisons de retraite, maintenant, on chante plus le temps des cerises, hein, c'est fini. Hein.
Mais Pascal Praud,
je ne sais pas, je ne suis pas un habitué des maisons de retraite, chère Jocelyne, j'y vais assez peu. Vous draguez dans les supermarchés, moi je ne drague pas dans les maisons de retraite. D'ailleurs, je ne drague pas du tout. Je me permets de le dire.
Non.
À l'antenne.
Sérieuse comme une nonne maintenant.
On vous aide, Pascal, quand vous faites tomber quelque chose dans le supermarché?
C'est agréable, Greg Carlini. On laisse la pub ou pas? Vous avez un sourire, en tout cas, vous nous avez donné un peu de joie, Jocelyne. Et ça, c'est important, croyez-moi.
C'est mon caractère. Et j'ai quelques amies femmes, et elles ont toute la quarantaine. Je fuis la vieillesse. Et
ah bon?
C'est elles qui me. Ah oui, moi, les tamalous, je peux pas.
C'est-à-dire qu'on a commencé cette conversation en disant que vous étiez jeune à 70 ans et qu'il fallait pas appeler vieux et que vous dites aujourd'hui je suis qu'avec des gens de 40 ans parce que je fuis la vieillesse. Donc à l'arrivée,
pour moi, mais non. Moi je respecte parce que vous voyez les gens qui sont dans les maisons de retraite actuellement, il faut pas oublier que c'est dans les tranchées à l'époque.
Oui.
C'est eux qui nous ont donné quand même l'autorisation.
Vous trompez un peu d'une génération, parce que ceux qui étaient dans les tranchées, ils ne sont plus dans les maisons de retraite, ils sont au cimetière, si vous me permettez. Mais bon. Elle est partie, Jocelyne? Elle est partie.
Hein,
Jocelyne,
non,
oui. Ceux qui étaient dans les tranchées, ils ne sont plus dans les maisons de retraite. S'ils avaient 20 ans en 18, ils auraient 125 ans aujourd'hui.
Après,
donc,
la guerre de 40, allez.
Oui, il y avait moins de tranchées dans
Il y avait moins de tranchées, mais ils nous ont quand même aidés.
Mais bien sûr, Jocelyne. Bon, et on passe la pub. Hein, vous restez avec nous parce que vous allez un peu.
Ah bon, non, ça va pas aller.
Mais si, restez. À tout de suite.
C'était quelque chose de joyeux, hein.
Bah, bien sûr. À tout de suite.
Pas des couches, machin, comme d'habitude.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Bon, et pour Jocelyne.
Rien à voir avec les jeunes et les vieux, mais.
Oui.
Oui, non, mais restez avec nous, Jocelyne. Tout va bien. On a l'affaire en main, Jocelyne. Laurent.
C'est le sujet qui vous fait réagir depuis 13h. Est-on en train de sacrifier notre jeunesse pour préserver les plus anciens? Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, a pris la parole hier lors d'une audition publique.
Je pense que nous sommes véritablement avec une question un peu sociétale et éthique, quasi éthique actuellement, de politique générationnelle entre continuer à préserver la santé des plus anciens, mais peut-être au détriment de la santé des plus jeunes.
Vous avez 20-30 ans, vous voulez reprendre une vie normale, vous vous sentez abandonné, sacrifié. Les personnes âgées doivent-elles s'auto-confiner pour laisser les autres générations vivre normalement? Devons-nous au contraire protéger nos aînés quoi qu'il en coûte? 32-10. Vous êtes parents d'élèves, nous vous attendons dès maintenant au standard. Craignez-vous la fermeture des écoles avec la menace d'un confinement très serré ou le terme qui apparaît hybride? Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a évoqué un allongement des vacances scolaires. C'est la crainte de ce père de famille interrogé par Nicolas Burnand.
Moi, je suis en télétravail depuis le mois de mars, donc je vous cache pas qu'avoir deux enfants en bas âge à la maison en télétravail, c'est compliqué. Donc s'ils ferment les collèges, ma femme travaille dans un collège, peut-être qu'elle pourra assurer la garde des enfants à la maison, mais rien n'est moins sûr. Sinon, je ferai appel à des aides extérieures, puisque je serai obligé de payer quelqu'un pour venir garder mes enfants chez moi. On n'a pas le choix. On est au bord de la rupture, quoi.
Redoutez-vous de nouveau l'enseignement à distance, professeur, chef d'établissement? Qu'en pensez-vous? Comment continuer à travailler normalement si les écoles ferment? Demande Romain sur la page Facebook. Et désolé d'être vulgaire, écrit Gabriel, mais on va tous péter un câble s'il faut télétravailler, garder les enfants. Partagez-vous ces avis. 32-10.
Il est 13h34 et hier, dans son surf, l'ami Cyprien Sini avait fait 50 nuances de confinement, mais je crois que le mot hybride, il ne l'avait pas employé. Non. C'est un mot qui est nouveau depuis hybride. Hier. Il y avait light, oui. Il y avait allégé, il y avait strict, il y avait dur, il y avait serré, il y avait toutes les possibilités d'un confinement, mais pas hybride, qui est généralement réservé aux voitures. Monsieur Sportouche.
Eh bien voilà, vous m'avez réclamé. Vous réclamez, on s'exécute, on vient.
Chef du service politique d'RTL. D'abord, Pascal, qui vous avez dimanche à 12h?
Eh bien Philippe Martinez, voilà, le leader de la CGT, qui va nous éclairer ou nous dire, lui, quel type de confinement il veut et peut-être mettre en garde sur les dégâts économiques et sociaux qu'il peut y avoir derrière.
Benjamin Sportouche, est-ce qu'on sait quand le président va-t-il parler?
Écoutez, on ne sait pas, ce n'est pas annoncé, Pascal, donc il y a deux tendances, soit dimanche soir, soit lundi soir, voilà, à ce stade.
Généralement, il a parlé...
Alors, vous savez, William Galibert du service politique a recensé donc les interventions du président depuis le début, et il y a eu une seule fois où il a parlé un dimanche soir. Alors, le lundi 16 mars, c'était pour le premier confinement, le lundi 13 avril pour le déconfinement, le dimanche 14 juin, annonçant la réouverture des écoles et la confirmation des municipales, puis ce fut un mercredi et un mardi. Donc, vous voyez, des comptes très précis, mais il n'y a qu'une fois où il a parlé un dimanche, on verra. Certains me disent lundi soir, d'autres dimanche soir.
Est-ce qu'il est juste de dire que les annonces qu'il fera dimanche ou lundi seront mises en place à la fin de la semaine avec vendredi et le début des premières vacances scolaires?
Ça peut être dès mercredi, Pascal. Rien n'est encore acté. Puisqu'on
mais il y a une forme de logique peut-être tout ou pas?
C'est sûr qu'il pourrait profiter du début des vacances scolaires pour mettre en application, mais en même temps on nous dit qu'il faut aller très vite. Il y a une pression quand même du corps du
on n'est pas à trois jours près.
Ah ben, oui, mais en même temps, quand vous entendez Olivier Véran, on peut être à trois jours près sur ce variant. Il y a une étude très intéressante qui est publiée dans Le Monde aujourd'hui, et je le dis devant Cyprien Sini qui regarde et qui lit la presse et la décortique. Eh bien, dans cette étude très intéressante, Pascal, il est dit que s'il y avait eu le déclenchement du premier confinement était plus précoce, nous aurions sauvé beaucoup plus de vies. Le chiffre est très important. À quelques jours près seulement, Pascal. Donc il y a, quand on lit ces choses-là, une pression évidente sur le gouvernement.
Dernière chose, parce que c'est l'émission des auditeurs, bien évidemment, bien sûr, et ceux qui interviennent. Est-ce qu'on sait ce qu'il va dire?
Eh bien, on ne sait pas. Parce que est-ce que lui-même le sait précisément?
Commerce ouvert ou pas?
Eh bien, c'est pas clair. Il peut y avoir cette alternative.
Vous avez bien fait de venir, franchement.
Mais comment vous voulez qu'il le sache? Mais moi, je vous donne...
Taisez-vous,
Pascal.
Monsieur Sini.
Je sais que vous voulez des informations viables. Je ne suis pas ici et vous le savez.
Donc, commerce, on ne sait pas. École?
Eh bien, pour les écoles, c'est ce qu'il y a. On ne sait pas non plus précisément. Est-ce qu'il y aura, par exemple, deux semaines de vacances? Moi, je ne suis pas le gouvernement, Pascal. Et ça, vos éditeurs le savent. Et ils nous en voudraient. Et ils m'en voudraient. Et je crois que Cyprien...
Non, mais votre extrême prudence, je la comprends.
Elle vient des informations que j'ai ou que je n'ai pas. Pour l'instant, il y a des arbitrages qui sont...
Tendance.
Par exemple, je peux vous dire que Bercy, et c'est normal, ils sont dans leur couloir, ils sont dans leur sillon, ils poussent pourquoi? Pour que les commerces restent ouverts, mais c'est-à-dire uniquement avec du click and collect, uniquement avec des prises de rendez-vous. Ce qui voudrait dire, est-ce que ça veut dire, mais après la question se pose, est-ce qu'il y aurait une case dérogatoire sur ces fameuses attestations pour aller chercher un colis, pour aller chercher un achat que vous feriez, vous, avec, pour une cravate, par exemple?
Donc un rendez-vous, Pascal, pour acheter une cravate.
Eh bien, à ce moment-là, il faudrait faire ça, vous l'aurez commandé avant et vous iriez. Alors que dans les deux premiers confinements, nous n'avions pas la possibilité de faire cette démarche. Oui. Les attestations... Écoutez, s'il y a confinement, on ne voit pas comment on pourrait y échapper. Pour l'instant, encore une fois...
On pourra bouger?
Pardon? Non, mais là, vous me demandez de
bouger
faire
dans les régions.
D'être décideur. Je ne suis pas décideur. Je suis journaliste et vous savez qu'en ce moment, ce n'est déjà pas facile.
Non, mais je cherche la tendance.
La tendance, elle, et encore une fois, celle du gouvernement, c'est de trouver quelque chose, un mix. Emmanuel Macron veut quelque chose qui ne soit pas automatique. Voilà le mot qu'il a utilisé devant certains de ses proches. Il ne veut pas qu'il y ait une démarche robotique, c'est-à-dire on a une vague épidémique, on applique un confinement. Non, il veut trouver une sorte de mélange entre ce qui s'est fait ou de nouveau
hybride
confinement.
Hybride, vous n'aviez pas utilisé ce mot-là hier.
C'est hybride, je connaissais
parce que très serré, ça marche. Mais hybride, ça parle
Monsieur
en
effet. Monsieur Sportouche, je ne vais pas vous garder davantage. Mais d'abord, écoutez, c'est l'émission des auditeurs. Mais non, mais je vous pose les questions que les auditeurs se posent. J'ai fait l'auditeur, là.
Mais vous avez raison, Pascal. Et après, bien évidemment, je vous donne les informations dont j'ai dans ma besace.
Chef du service politique. Merci beaucoup. Retournez-vous confiné à votre bureau. Il est 13h30. 39.
Chercher de l'info.
On va prendre des auditeurs puisque Cyprien Signy est là, mais comme on n'a pas entendu d'auditeurs pendant 5 minutes,
c'est
on
vous
va.
Qui avez demandé de venir.
Oui, parce que vous donnez le programme du soir.
On s'exécute.
La pub tout de suite. La pub. Pas de chanson.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Delia et je la salue, Delia. Je vais vous citer également un petit sondage qui m'a fait rire. 62% des gens souhaitent le confinement, mais 14% simplement souhaitent qu'on applique les mesures. C'est tellement français. Donc oui, on veut le confinement, mais bon, on n'applique pas les mesures quand même. 14%, donc c'est des confinements sans mesures. C'est bien. Delia, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes infirmière libérale, vous êtes dans le Nord.
C'est ça, complètement. Donc, c'est le sujet de ce matin.
C'est-à-dire ?
Avec mes patients, puisqu'en fait, ils ont réagi justement à ce que la personne qui était passée sur RTL hier, et on en a reparlé, et il disait...
La personne Gilles, vous parlez Gilles, oui, la personne de 85 ans, hein, qui disait « je peux partir et place aux jeunes ».
Tout à fait, ouais. Et en fait, ils pensaient la même chose, hein. C'est vrai qu'ils attendent, enfin, il y en a certains, ils ont plus de 90 ans, attention, hein, je ne vais pas dire plus de 70 ans, parce que pour moi, 70 ans, on est jeune.
C'est vrai.
Mais je parle vraiment des personnes âgées au-dessus de 90 ans, qui ne savent plus trop marcher, qui dépendent toujours des gens, des personnes, des auxiliaires de vie, des infirmiers. Et là, effectivement, ils attendent à moitié la mort. Hein.
Oui, mais alors, chaque cas est différent. Une personne de 90 ans, il y a des gens... Le problème, c'est que quand on passe 80 ans, c'est très inégalitaire. Il y a des gens qui sont en pleine forme, et puis il y a des gens qui sont, toute leur vie a été plus rude peut-être, parce qu'ils ont fait moins attention, je ne sais pas, parce que ceci, parce que cela. Et là, il y a des différences très très grandes.
Oui, complètement. Et moi, je suis contre le confinement total qu'on a subi en mars, puisque, on est en train de faire une dette quand même qui va avoir des conséquences énormes pour justement notre jeunesse, parce que nous on n'aura pas de retraite, hein, contrairement à, justement aux personnes âgées. Nous on va devoir payer toute notre vie la dette qu'on est en train de d'augmenter au fur et à mesure des confinements.
C'est sûr qu'on handicape l'avenir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si cette dette, il y a un moment, peut-être que c'est tellement abstrait tout ça qu'on se demande même si on la remboursera. Mais bon, on ne va pas entrer là-dedans, Delia. Qu'est-ce que vous constatez-vous sur le terrain ? Est-ce que vous voyez ce changement un peu dans l'opinion publique qu'on soulignait tout à l'heure, qu'on s'installe au fond dans la durée désormais avec ces vaccins, avec ces variants, avec ces virus ?
Alors, moi, ce que je constate, c'est que déjà, mes personnes âgées veulent se faire vacciner, veulent se protéger, et ils ne peuvent pas, déjà, d'une part. Ils voudraient que ça soit nous, parce qu'ils n'ont pas Internet, et ils ne peuvent pas prendre rendez-vous ou par téléphone, parce qu'ils ne répondent pas, parce que je l'ai fait. Sur Internet, ils ne savent pas le faire. Donc, ils dépendent toujours des autres personnes, des enfants, pour prendre rendez-vous. Donc, ça... Et alors, moi... que je constate et ce que j'aimerais bien j'ai un écho là, ça m'énerve. J'aimerais bien qu'on confine surtout les personnes qui sont fragiles et qui sont c'est ça surtout, pourquoi ne pas penser à l'inverse.
Bah, c'est vrai qu'il y a un autoconfinement et elles font extrêmement attention. Merci en tout cas, Delia. Merci de ce témoignage. À 13h45, très souvent le vendredi et même tous les vendredis, désormais, Cyprien Sini vient nous voir parce que entre 19h15 et 20h, c'est On défait le monde et c'est une émission formidable. Ce sera Stéphane encore ce soir qui sera avec vous, avec Brice Dugénie, avec Laurent Tessier, avec Greg Caranoni.
Marie Mollet, on sera tous là, effectivement.
Marie Mollet qui a fait une excellente interview de Jean-Marie Le Pen.
Tout à fait.
Je ne sais pas si vous la repasserez ce matin, mais.
On l'a passée ce matin. Elle était à Montretout hier après-midi avec Jean-Marie.
Incroyable, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette interview était étonnante parce qu'il parlait justement de la mort, Jean-Marie Le Pen, et ça m'a frappé. Le programme aujourd'hui.
On va parler de l'égalité homme-femme en entreprise 10 ans après la loi Zimmermann. Où en est-on ? Je vous emmène en Israël, figurez-vous. Où là, on a vacciné, hein, vous le savez. 30% de la population.
35.
35, ça monte tous les jours. Voilà, donc on va voir comment ça marche.
Mais confinement plus vaccination.
Ouais, et donc, résultat. Très bon résultat.
Très bon résultat. Mais il y a 8 millions de personnes en Israël. Est-ce plus facile? Vous serez avec un immunologue, peut-être?
Absolument. Qui travaille en Israël, qui est là-bas.
Cyril Cohen.
Tout à fait.
Vous savez où il est né, Cyril Cohen?
Non.
Il est Marseillais.
Non.
Il est parti à 28 ans de Marseille et il vit en Israël depuis, je sais pas quel âge il a, depuis 30 ou 40 ans.
Comme moi.
Bah oui, oui, quoi. Vous êtes.
Vous savez que les Marseillais sont en pointe dans cette épidémie, quand même.
Je suis d'accord avec vous.
Professeur Raoult, en pointe ou pas, on choisit. Il y a eu le patron de Moderna qui est Marseillais et donc vous avez ce
quand vous dites comme vous, c'est que vous considérez quand même pas que Paris est l'étranger, comme Israël est un pays étranger.
Non, mais je suis Marseillais, comme
quand on quitte Marseille, on va forcément dans des pays étrangers.
Bon, on vous donnera aussi des nouvelles du Festival de Cannes, figurez-vous, ça va pas fort.
Quand a lieu au mois de juillet.
Exactement, enfin, qui est encore une fois reporté, au mois de juillet, on verra. Mm. Et puis on prendra aussi des infos sur Kobe Bryant, c'était il y a un an, jour pour jour quasiment.
Et bien, on vous suivra. 19h15, 20h. Merci Cyprien.
On a quand même la sensation que Pascal ait envie de participer à cette émission.
Mais il aime un jour. Ah, pas du tout. On vous invitera un jour.
Non, ne m'invitez
vous
pas.
Arrivez, vous l'écoutez tous les soirs.
Ben, je l'écoute mes amis d'RTL. Est-ce qu'on a une petite chanson sur les vieux ou les jeunes?
Oui, alors.
Hier encore, j'avais
ah, ça c'est magnifique.
C'est Charles Aznavour. Il est bon.
Même le devancer, je ne fais que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer.
Vous allez continuer de nous écouter après la pub. Playlist intergénérationnelle des chansons qui parlent de la jeunesse et des chansons qui parlent de la vieillesse. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et toujours Laurent Tessier avec nous.
Le gouvernement prévoit qu'en février, seulement 1 million de personnes recevront une première injection de vaccin contre la Covid-19. Les livraisons de doses sont moins importantes que prévu. Votre rendez-vous pour vous faire vacciner a peut-être été reporté. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est voulu rassurant ce matin au micro d'Agathe Landais.
Alors, il n'y a pas d'annulation. Il y a pu avoir ce qu'on appelle des primo-injections qui peuvent être reportées de quelques jours pour plusieurs raisons. Effectivement, il y a eu des diminutions de l'arrivage de vaccins par rapport à ce qui nous avait été promis, par rapport à ce que nous avions signé en termes de contrat. Et puis il y a eu la multiplication des centres de vaccination qui fait qu'il y a des endroits où il y a eu un peu plus de rendez-vous programmés qu'il n'y avait de doses qui étaient prévues. Tout cela va s'arrêter, ça rentre dans l'ordre.
Ces propos du ministre de la Santé vous rassurent-ils? Soignants, vous n'avez plus de doses disponibles, venez témoigner dans l'émission sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, Barbara parle d'un fiasco, on se moque vraiment du monde, s'énerve Pierre. Les laboratoires ne sont pas à la hauteur, lance Patrick. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10.
13h50, Charles est là, qui habite Montpellier. Oui. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et je rappelle
bonjour,
notre Pascal. Question, est-on en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? C'est ce qui nous anime depuis 13h.
Oui, mais écoutez, moi je pense que non, parce que en réalité, je pense que ce qui nous conduit à ces raisonnements, c'est la gestion de la pénurie. Depuis le début de cette pandémie, c'est on gère la pénurie. Bon, et ça nous mène à des raisonnements qui sont complètement honteux. Parce que la réalité, c'est que nous sommes à court de solutions face à cette épidémie et que d'un coup, on est pris par un regain d'instinct de survie que je trouve très malsain. Voilà, très malsain parce qu'on oppose maintenant les vieux, les jeunes. Moi, je suis désolé, ce n'est pas l'idée que je me fais de notre société. Voilà, au 21e siècle, moi, je plaide pour une société qui est plutôt solidaire, on va dire. Et je pense qu'on doit préserver autant nos jeunes que nos seniors voilà, oui, mais concrètement, alors qu'on a moins de valeur que des jeunes.
Non, mais c'est pas une question de valeur d'ailleurs.
Elle est quand même, ben, je sais pas, moi je trouve très malsain de hiérarchiser les générations au nom du fait qu'on gère une pénurie et qu'on a aucune solution pour l'endiguer pour l'instant, voilà.
C'est des questions délicates, mais vous avez vos parents ou vos grands-parents peut-être,
Charles,
toujours?
Absolument, oui, j'ai mes parents. Et
vous avez des enfants
d'ailleurs. Non.
Bon, alors, c'est des questions vraiment très délicates et je vais aller sur la pointe des pieds là-dessus. Mais évidemment qu'il y a eu des hiérarchies qui se mettent en place. C'est-à-dire que quand on a des parents qui ont 90 ans, et puis quand on a des enfants qui ont 20 ans ou 25 ans, et qu'on est au milieu de sa vie, qu'on a 50 ans ou 55 ans, forcément, il y a un sens de la vie où on peut accepter que ses parents partent, alors qu'on n'acceptera pas ou on n'accepterait pas que ses enfants soient frappés d'un malheur comme cela.
Bien sûr, mais... Enfin,
donc cette hiérarchie, chacun l'a fait, intimement.
Mais...
Alors, est-ce qu'il faut l'exprimer ou pas? Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je dis je vais sur des œufs, parce que c'est toujours des sujets extrêmement délicats. Mais bien sûr qu'on est préparé au départ de ses parents lorsqu'ils ont 85-90 ans, et que jamais on ne serait préparé à la mort d'un enfant, par exemple.
Bien sûr, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'en sacrifiant, entre guillemets, nos personnes âgées, on va résoudre le problème de notre...
Ah, moi, je pense qu'il faut sacrifier personne. Ça, le mot sacrifice n'existe pas. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire que, et c'est ce que dit M. Delfraissy, on a tout fermé parce qu'effectivement, on veut préserver les personnes âgées. C'est-à-dire que si on n'avait pas tout fermé, si par exemple, on avait dans les hôpitaux, une capacité d'accueil supérieure. Mettons qu'on ait 10 000, 15 000 ou 20 000 lits. Bon. Mm-hmm. À ce moment-là, on accepterait que le virus circule davantage et mécaniquement, on accepterait que plus de personnes âgées aillent en réanimation, donc qu'il y ait plus de morts. C'est ça la réalité. Donc c'est le sujet qui est posé. Donc je vous le pose à vous. Est-ce que vous acceptez ça ou pas?
Non, je ne l'accepte pas, mais comme je vous dis, on gère la pénurie. Et dans une société...
Ça, c'est
comme
encore autre chose, parce que c'est le débat théorique qui m'intéresse, moi. Est-ce que vous acceptez qu'il y ait plus de morts? Et vous dites non.
Non, bien sûr que non.
Vous avez forcément raison pour vous, Charles. C'est pour ça que cette émission existe.
J'ai l'impression, excusez-moi Pascal, mais j'ai l'impression que j'ai raison pour tout le monde.
Mais tout le monde ne pense pas comme vous.
Qui va accepter que ses parents partent? Qui va accepter que ses grands-parents partent? Enfin, à un moment donné, quand ça nous touche de près, vous savez, quand les choses nous touchent de loin, on peut très bien raisonner froidement et raisonner avec des chiffres et sans... Vous voyez? Mais quand ça nous touche de près, on n'est plus dans ce raisonnement-là.
Mais c'est pour ça que c'est pas l'individu qui réfléchit, c'est la société. Vous avez parfaitement raison, mais c'est comme un débat sur la peine de mort. Si on demande à quelqu'un dont l'enfant vient d'être tué par un ravisseur, j'imagine qu'il n'a pas le même sentiment que celui qui est loin du sujet. Donc c'est la société.
Bien sûr. Mais moi, après, je me mets à la place de tout le monde. Enfin, je crois que personne n'a envie de sacrifier qui que ce soit, et que ce soit des jeunes, des vieux, des moins jeunes. Vous savez, malheureusement, cette pandémie, elle touche toutes les générations. Bon, évidemment.
Mais vous n'êtes pas sans... Quand vous entendez les dépressions, quand vous entendez les commerces qui ferment, quand vous entendez les restaurateurs qui n'ont plus d'argent, les indépendants... Vous, par exemple, vous êtes enseignant, Charles?
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Donc, souvent, je le dis, et pardonnez-moi de le dire, parce que c'est pas gentil vis-à-vis de vous, mais ceux qui sont payés à la fin du mois ne pensent pas la même chose dans cette épidémie que ceux qui ne sont pas payés à la fin du mois. Vous avez votre salaire. Moi aussi, d'ailleurs, je l'ai.
Bien sûr.
Quoi qu'il arrive à la fin du mois.
Pascal, ne pensez pas, vous savez, je suis pas corporatiste idiot, vous savez, moi j'ai dans mon entourage des personnes, des amis, des gens de ma famille
mais
qui sont dans la restauration.
Mais c'est pas la même chose que vous, si vous n'avez rien depuis un an. Moi j'ai eu ce matin un disque jockey, il n'a rien depuis un an.
Je vais dans votre sens. Je suis avec des intermittents du spectacle qui sont... j'ai d'autres activités, mais je peux vous dire par là que je suis tout à fait conscient de ça et que c'est un drame Voilà, pour les restaurateurs, c'est un drame. Pour les boîtes de nuit, c'est un drame. Pour les bars, c'est un drame. Et je vais pas vous dire le contraire. c'est pas mon nombril que je regarde. C'est vraiment, j'élargis un peu la vision.
Mais malgré ça, vous restez sur votre position. Vous dites, par exemple, vous êtes pour le confinement qui arrive, un confinement serré.
Mais écoutez, moi, j'ai pas à être pour ou contre. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'on n'a pas de solution. Si vous en trouvez une meilleure, je suis preneur.
Les solutions, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que tu pourrais doubler ta capacité d'accueil dans les hôpitaux. Depuis un an, tu aurais pu le faire, en tout cas. Et puis, tu pourrais... je vous le répète, si tu acceptes ça, tu acceptes aussi qu'il y aura plus de morts.
Écoutez, moi, franchement, j'ai pas de solution. Voilà, ce que je vois, c'est que j'ai été frappé depuis le début de cette pandémie. J'ai été frappé que nos capacités d'accueil soient si faibles.
Pour tout vous dire. Voilà. 5000 personnes en réanimation, je trouve ça incroyablement faible.
Voilà. Moi, j'avais l'impression que notre système de santé était un système vraiment, hyper développé, moderne, à la pointe. Moi, j'ai toujours entendu ça. Mmh. Et là, en fait, je suis tombé des nues. Donc, c'est vrai que depuis le début, on gère une pénurie. Cette pénurie, moi, elle est effroyable parce que je suis comme vous. Je m'attendais pas du tout à ce nombre de lits de réanimation. Et du coup, on gère tous la pénurie. Vous savez, moi, je suis modeste, hein. Je suis un bon soldat. On me dit de faire des choses, je les fais, je respecte. Mes parents, ça fait un an que je ne les ai pas. Enfin, que je les vois avec un masque sur le nez. Je n'ai jamais enlevé le masque. Je ne les ai pas encore pris dans mes bras depuis un an. Je respecte. Alors après, évidemment...
Merci, Charles. Merci, il est 13h58. Je vous presse un peu parce que Hortense Crépin est là et elle va nous donner les dernières infos. Et puis nous, on continue entre 14h et 14h30. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On va continuer la discussion, bien sûr, avec cette fois-ci un étudiant sur cette jeunesse peut-être sacrifiée. Bonjour Lucas, vous avez ce sentiment ?
Bonjour. Alors, à certains égards, oui, mais alors ça dépend. Il faut bien préciser sacrifié pour qui ?
Eh bien, on va développer tout ça. Hortense Crépin, pour le moment, le flash.
160 psychologues vont être recrutés pour soutenir les soignants, annonce d'Olivier Véran ce matin. En réaction au report de calendrier à cause des retards de livraison de doses, le ministre de la Santé ajoute qu'il n'y a pas d'annulation, il y a des reports de primo-injection. Le lien est désormais clairement établi entre les meurtres hier en Drôme-Ardèche d'une conseillère Pôle emploi et d'une DRH et celui d'une autre personne mardi dans le Haut-Rhin. L'homme placé en garde à vue à Valence ne parle pas pour l'instant. Son ADN coïncide avec celui prélevé dans l'Est. Un homme agressé chez lui au nord de Mulhouse mardi a lui reconnu sur photo le suspect. 2550 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2020. C'est ce que révèlent des chiffres de la sécurité routière. La mortalité sur les routes n'a jamais été aussi basse. C'était un peu plus de 3200 morts l'an dernier. Ces données s'expliquent principalement par les épisodes de confinement où la circulation a été drastiquement réduite. En football, les abonnés à Téléfoot vont pouvoir regarder la Ligue 1 au moins jusqu'au 3 février. L'accord avec la Ligue prévoyait un arrêt au 31 janvier. L'hypothèse d'une diffusion au-delà du 3 février ne serait pas exclue. La Ligue de football professionnel attend des offres au 1er février pour le rachat des matchs achetés initialement par Mediapro. La 22e journée de Ligue 1, justement, démarrera ce soir avec la rencontre entre Lyon et Bordeaux. Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h. Et en balle, ce serait la première médaille française depuis 2017. L'équipe de France vise la finale des championnats du monde en Égypte. Les Bleus affrontent la Suède à 17h30 en demi-finale. La météo cet après-midi, un temps très agité, des pluies et des rafales de vent. Elles vont atteindre 70 à 90 km/h et même au-delà des 100 km/h en montagne. Conséquence, 16 départements de la façade est du pays, mais aussi la Corse, sont placés en vigilance orange. Les températures cet après-midi, 10 degrés à Lille, 12 à Nantes, 16 à Marseille. Les courses étaient à Pau cet après-midi, l'arrivée provisoire, l'As, le 3. Le 12, le 11, le 4, 14h et presque 3 minutes sur RTL et le retour des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci beaucoup Hortense.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Lucas qui est étudiant, qui a 21 ans dans le Vaucluse, vous étudiez quoi Lucas ?
Alors je suis étudiant en Master 1, métier de l'enseignement et de la formation pour être prof d'histoire-géographie.
Donc pour le moment vous êtes en distanciel ?
Alors oui, pour le moment je suis en distanciel et c'est super compliqué. J'ai essayé de porter la voix des étudiants un petit peu pour alerter sur cette situation qui avait l'air d'alerter personne. Et puis voilà, j'ai fait une pétition là qui a été envoyée au président de la République et à la ministre de l'Enseignement supérieur pour alerter un petit peu.
La dernière fois que vous êtes allé en cours avec d'autres étudiants, c'était quand ?
C'était au mois d'octobre, juste avant le deuxième confinement.
Bon, est-ce que vous trouvez que, sur de 1 à 10, par exemple, la douleur que vous éprouvez, ou en tout cas la difficulté que vous éprouvez, ou la déprime que vous éprouvez, vous la mettriez sur... vous mettriez quelle note ?
Alors, tout cumulé, je pense que c'est au moins entre 8 et 9.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même, parce qu'il y a de la détresse psychologique, il y a de l'isolement, et en plus de ça, il n'y a pas de visibilité, il n'y a aucune visibilité, on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir, et ça, c'est très compliqué.
Et quand on essaye de relativiser pour vous, et qu'on vous dit, vous dites 8 et 9, vous, mais qu'on vous dit avoir 20 ans en 14, avoir 20 ans en 40, avoir 20 ans en 55, quand vous partez en Algérie, est-ce que c'est des choses que vous entendez ?
Alors... Justement, je voulais rebondir parce qu'il y a eu plusieurs auditeurs, Serge notamment. Il faut arrêter avec cet argument de la guerre. Il faut arrêter en disant qu'on n'a pas connu la guerre, qu'on peut pas se plaindre, ou en tout cas qu'on n'est pas une génération, on a tout à portée de main, etc. Il faut arrêter avec ces arguments-là parce que chaque époque est différente. Aujourd'hui, oui, bah c'est vrai, on n'a pas fait la guerre, mais souvent les personnes qui disent ça n'ont pas fait la guerre non plus. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la guerre, c'est le baromètre pour se plaindre. On a fait la guerre, donc la parole est recevable. Et ça, il faut arrêter avec cet argument-là parce que ça tient pas debout. Je veux dire, on a le droit de se plaindre. On a le droit de se plaindre, et c'est légitime.
Non, mais j'entends ce que vous dites parce que effectivement, ce que je disais tout à l'heure, quand quelqu'un vient de se casser la jambe, si vous lui dites, tu sais, t'aurais pu avoir un cancer de ceci ou de cela, ça enlèvera pas sa douleur, c'est bien évident. Mais en même temps, c'est vrai que votre père, sans doute pas, mais votre grand-père peut-être a fait une des guerres et pourquoi pas peut-être la guerre d'Algérie. Ceux qui avaient votre âge, 21 ans, partaient en Algérie. Pour 30 mois. Voilà,
oui,
c'était deux années qui étaient sacrifiées.
Mais...
Donc, ça peut aussi s'entendre. Vous dites ça ne tient pas debout. Ça s'entend. C'est-à-dire que c'est un argument, ça s'entend. Et en 14, ils sont restés 4 ans dans les tranchées, certains.
Oui, mais peut-être. Mmh. Mais alors, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que votre... C'est, je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est que votre... et c'est ce que disait Serge, d'ailleurs. Moi, j'étais pas d'accord avec vous, mais là, je me fais l'avocat du diable. C'est que, au fond, votre blues ou votre déprime, ben, vous pouvez la prendre en patience pendant quelques temps, parce qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est ça que ça veut dire.
Oui, alors, je vais vous dire une chose. C'est que ça fait un an que ça dure, ça fait un an qu'on est à distance. Donc au bout d'un moment, cet argument, oui c'est vrai, on essaie de relativiser. Et pour vous dire honnêtement, je pense que les étudiants ont bien relativisé et ont bien eu le temps de prendre leur mal en patience. Ça fait un an que ça dure. Les premiers mois, on peut se dire ça, on peut se dire, après tout, on a un toit au-dessus de la tête, on peut manger, on n'a pas fait la guerre, etc. Au bout d'un an, ces arguments-là, ils paraissent dérisoires et il faut arrêter de regarder derrière nous. Aujourd'hui, on est dans une situation, ça fait un an que ça dure, un an que les étudiants sont isolés. Voilà, on est dans... Il faut arrêter de regarder et retracer des anciens épisodes. Là, aujourd'hui, la situation actuelle des choses, c'est que les étudiants...
La politique alternative, Lucas, vous, le regard que vous portez sur cette épidémie, selon vous, faudrait rouvrir les facs ?
Non, mais justement, rouvrir les facs à un moment où le variant n'a pas encore frappé vraiment pleinement, non, il ne faut pas rouvrir les facs. Mais à côté de ça, comme j'ai dit plusieurs fois, il faudrait faire en sorte du palliatif, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive en soins palliatifs, on va essayer de soulager sa douleur, et bien là, le gouvernement pourrait faire exactement pareil pour
mais
les étudiants. Eh ben, par exemple, en augmentant les APL. Par exemple, c'est une...
Ah, donc, on vous donnerait plus d'argent. Vous vous fichez de moi, là. Vous venez de m'expliquer que vous êtes dans une détresse psychologique, etc., que vous ne voyez plus vos amis, que vous ne pouvez plus travailler ensemble. Et la solution, ça serait de vous donner un peu plus d'argent.
Mais c'est pas uniquement ça. Ça fait la détresse
financière. Ça serait quoi, alors ?
Mais ça peut être, par exemple, éviter qu'il y ait une surcharge de travail... des étudiants devant leur ordinateur, fixer des horaires au-dessus desquels on peut pas aller, permettre aux étudiants, je sais pas s'il y a une case sur une attestation, d'aller se balader une heure ou je sais pas.
Mais là, vous avez le droit de vous balader.
Oui, je suis d'accord, mais écoutez, moi, je vais vous dire, par exemple, je fais 8h30, 17h30.
Il n'y a plus d'attestation aujourd'hui.
Je suis d'accord. Moi, je fais 8h30, 17h30. Je peux sortir 30 minutes par jour. Voilà, 30 minutes. Et à l'heure où il y a un nouveau confinement qui se profile...
Mais 8h, je comprends pas, 8h, c'est-à-dire que vous devez être devant les cours de 8h30 à 17h30, c'est ça?
Voilà, devant l'ordinateur.
Et vous trouvez que c'est trop?
Oui, je trouve que c'est trop, parce que, écoutez, on n'est pas des robots, je veux dire, quand on fait ça... On est souvent dans la même pièce dans nos appart étudiants. On est complètement isolé de tout. Alors oui, moi je trouve que c'est trop. Et ça, encore une fois, je le dis, ça fait un an que ça dure. Et moi je mets au défi.
Mais parce qu'il y a des cours pendant de 8h30 à 17h30.
Oui, 8h30 midi, 13h, 17h30. Voilà.
8h30 midi. Ah oui, déjà il y a une heure de coupure. D'accord.
Oui.
Mais non, mais vous le dites pas.
Manger,
8h30. Bon, c'est pas le bagne non plus quand même. C'est vrai que ça demande de la concentration du lundi au vendredi.
Du lundi au vendredi. Alors, moi je suis d'accord, c'est pas le bagne non plus quand c'est un mois. Mais là, quand ça fait je sais pas combien de mois que ça dure, oui, moi je me défie n'importe qui de rester dans
Donc faut rouvrir les facs à ce moment-là. Et vous me dites non.
Pas rouvrir les facs.
Donc faudrait faire une heure de moins peut-être, 16h30.
Une heure de moins, ou dire par exemple, on va éviter une surcharge de travail, on va mettre en place dans les tâches qu'on donne aux étudiants, qu'ils n'aient pas besoin de travailler après. On met des heures, par exemple, on estime qu'entre, je sais pas moi, 8h et 14h, c'est la durée maximale avec laquelle un étudiant pourrait rester devant l'ordinateur. On met en place des choses pour éviter la détresse psychologique. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on a des scientifiques en France, on a des psychologues, on a des personnes qui sont capables d'émettre des idées pour dire, on sait que potentiellement, sur la santé mentale d'un étudiant, de rester de 8h30 à 17h30 devant un ordinateur, ça
demande de la concentration. Vous avez raison. Écoutez, Lucas, je vous trouve plutôt convaincant. Finalement, je vous ai un peu comme ça brocardé, mais vous êtes plutôt convaincant. Effectivement, ce que vous dites est intelligent et ça s'entend. Effectivement, c'est vous vivez une période qui n'est pas simple pour vous. C'est vrai que seul sur son ordinateur, 8h30, 17h30, ça fait donc 3h30 plus ça fait 8h devant. En fac, on peut de temps en temps, sortir de la concentration maximum avec le prof, j'imagine, parce qu'on est avec des voisins, etc. Là, c'est un peu plus compliqué.
Oui, et puis aussi dissocier son environnement de travail. Et moi, je voudrais juste revenir rapidement sur le thème aujourd'hui qui est une jeunesse sacrifiée par rapport aux personnes âgées, etc.
Vous allez le dire après la pub, ça vous ennuie pas?
Très bien. Hein,
vous êtes jeune et sympathique, vous avez le droit à une deuxième chance. 14h10, on a plus de petites chansons aussi?
J'ai une chanson des années 80 qui s'appelle Forever Young d'Alphaville.
Ah, moi je. Ça, c'était vachement bien.
J'adore.
Forever Young. C'était très très bien ça. Ça a été numéro 1 top 50, je pense.
Sinon, pour la jeunesse éternelle, j'ai aussi. Que c'est grisant. Brigitte Bardot. Jeunesse éternelle.
Au soleil. Une chanson sur la jeunesse, ça.
Non,
est
mais bon, j'essaie de faire une pirouette pour mettre des choses un peu plus enjouées.
C'est que, l'éternité, c'est pas l'immortalité, hein. Parce que l'éternité n'a pas de début et n'a pas de fin, alors que l'immortalité a un début mais n'a pas de fin. Donc quand on dit jeunesse éternelle, on devrait dire jeunesse immortelle. Mais éternelle, c'est plus joli. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Donc on finit avec Lucas. Vous vouliez terminer sur cette question. Est-on en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens?
Alors oui, moi je voulais dire que j'étais plutôt d'accord avec Charles, qui est passé en disant que voilà, on en arrive aujourd'hui à un débat entre les jeunes et les personnes âgées. Et pour moi, je voudrais alerter en disant que c'est très dangereux finalement d'arriver à ce genre de questions. C'est très dangereux parce que c'est un terreau fertile à des décisions qui peuvent être dangereuses. Et pour moi, ce débat-là, c'est créer une crise dans la crise. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Aujourd'hui, la solidarité envers le gouvernement, il y a beaucoup de Français, je pense, qui l'ont perdu avec les mesures incohérentes. Et la solidarité entre les générations, c'est uniquement ce qui nous reste. Alors, il faut absolument que la France serve de modèle. Il faut que tout le monde soit solidaire. Il faut qu'on traverse cette crise tous ensemble. Et il ne faut pas commencer à se lancer dans...
Merci
dans
Lucas.
Idées,
vous êtes mûr pour faire de la politique.
Un petit peu étrange. Merci
à vous, Lucas. Nathalie est avec nous. Nathalie, Nathalie, c'est tout à fait particulier. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Pascal.
Vous avez 7 enfants.
Non, j'ai 6 enfants.
Ah, 6 enfants. Donc, mais c'est déjà bien. Je voudrais savoir combien de familles françaises ont 6 enfants. Je ne sais pas si vous connaissez la stat.
Je crois qu'on est moins de 1%.
Moins de 1%. Bon. Ouais. De quel âge à quel âge ?
12 ans à 1 an.
Donc évidemment, le confinement, vous le voyez venir avec anxiété.
Oui, alors moi ce que je voulais dire, c'est que je suis très très angoissée. J'ai des crises d'angoisse, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Donc là, ça revient. Ben, j'ai pas envie de me plaindre, hein. c'est pas mon petit cas personnel qui est intéressant. Pendant le dernier confinement, j'étais en congé maternité. Donc si vous voulez, j'ai fait avec. Voilà, j'ai pas eu de congé mater, mais c'était pas grave. J'avais mes enfants avec moi. Je suis sortie tous les jours parce que tout ça, toute cette crise sanitaire pour moi, ça n'a aucune importance. Je m'en fiche complètement. Mais c'est toutes les mesures qu'on prend contre les familles et contre la vie des gens, la vie du monde d'avant d'ailleurs, qui n'existe plus, qui n'existera plus. Donc là maintenant, il y a eu un deuxième confinement en novembre. J'avais déjà dit que ce confinement-là, pour moi, il n'avait pas existé puisque j'avais fait ma vie comme d'habitude. Donc du coup, le gouvernement, il s'est dit, voilà, le confinement en novembre, les gens, ils ont fait leur vie comme d'habitude. On va faire un confinement mixte. Alors on ne sait pas maintenant, école, pas école. Alors moi, si l'école ferme, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais dire à mon chef de service ? Ben, je viens pas travailler, c'est terminé. Donc moi déjà, j'ai 6 enfants. Bon, il y a beaucoup de mères de famille qui ont même que 1 ou 2 enfants. Elles sont déjà mal vues parce qu'elles ont des enfants. Elles prennent le mercredi, elles sont à 80%. Maintenant là, nous, on va devoir garder nos enfants à la maison. Le télétravail, c'est même pas la peine d'en parler. C'est impossible, sinon on devient fou.
C'est vrai que vous, c'est un cas très particulier parce que 6 enfants... vous êtes hors norme de ce point de vue-là. Donc pour vous, le télétravail est impossible.
Mais même pour une mère, moi je suis sur beaucoup de petits groupes de mamans, même pour une mère de 1 enfant, elle me dit souvent, comment tu fais avec 6? Moi j'arrive pas déjà avec 1. Même les mères de 1 enfant...
Ça dépend l'âge de l'enfant, mais un enfant qui a 12 ans, 13 ans, qui vit avec ses parents, il peut être dans sa chambre et ses parents assurent en télétravail, ça peut exister.
Bien sûr, les collégiens et les lycéens, je suis d'accord avec vous, admettons qu'ils se gèrent. Mais là, on parle des écoles primaires. Donc, si on ferme les écoles primaires, les écoles maternelles, ça revient au même. Si on en a 1, 2, 3, 4, 25, c'est pareil. Les enfants sont tout le temps en demande. Et maman, qu'est-ce que tu fais? Et ceci et cela. On ne peut pas travailler.
Alors, c'est quoi la solution, Nathalie?
Ben moi, pour moi, la solution, ça va être, c'est simple. Je vais encore dire à mon chef de service, ben je repose ou je repose pas d'ailleurs, parce que mes congés sont pas illimités. Donc à un moment donné, ben je vais pas au travail, je travaille pas, je suis fonctionnaire. Heureusement pour moi, j'imagine même pas les gens qui sont pas fonctionnaires et qui vont se faire virer.
Parce que qu'est-ce que ça change d'être fonctionnaire ? Vous serez pas payé.
Ben moi, je suis payé. Bien sûr que si, je suis payé tous les mois.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous ne venez pas et si vous posez des vacances, vous seriez dans le privé, ce serait la même chose. Je comprends pas ce que vous dites.
Moi, je vais. Si à un moment donné,
vous
si
allez poser quoi des vacances, vous allez poser.
Au mois de février, admettons. Si nous disent tout le mois de février, c'est semaine.
C'est ce qui va se passer sans doute. Semaines. Vous aurez voilà. sans doute 15 jours.
Voilà. Donc 15 jours, on les a déjà les vacances. Donc,
oui, mais vous aurez 15 jours plus 15 jours sans doute.
Voilà. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas poser un mois de congé en février. Je viens déjà d'en poser 10 jours là de congé parce que l'école est fermée.
Donc comment vous allez faire?
Eh ben, je vais dire à mon chef. Ben voilà, je travaille pas.
Et vous serez payé quand même?
Ben bien sûr, on est fonctionnaire.
Enfin, c'est invraisemblable. Vous dites, je travaille pas et vous êtes payé quand même.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, mon chef? Il va me dénoncer. Il va dire, Madame X, non elle mais... est chez elle, elle garde ses enfants et elle travaille pas. C'est le confinement. Ça s'est déjà passé comme ça.
Ce que vous nous dites est terrible. Ce que vous nous dites est absolument terrible, Nathalie. On est en dehors de toute l'égalité.
Bah écoutez, je sais pas comment ça se passe dans les autres fonctions publiques, mais moi dans ma fonction publique, on a des autorisations d'absence, voilà.
Bah, vous nous dites que pendant 15 jours, un fonctionnaire a le droit de ne pas venir travailler sans justification.
Mais la justification, c'est que je garde mes enfants. Si l'école est fermée, on a des attestations pour dire à nos employeurs, moi je suis dans le public donc je m'en sers pas, mais les gens qui sont dans le privé, si les écoles sont fermées, on a des attestations. L'école fournit des attestations pour dire, voilà, on est en distanciel, dans le privé, ils sont en chômage partiel.
Non mais a priori, vous devez travailler en télétravail, j'imagine.
Mais bien sûr, en télétravail, mais ce n'est pas possible.
Oui, j'ai bien compris votre cas.
Donc moi, mon chef de service, il va me dire quoi? Il va me dire, ben, fais ce que tu peux.
Ouais. Bon, bah écoute,
je vais pas devenir folle. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben dans un an, peut-être, dans 2 ans, quand tout sera terminé, ben il va me dire d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et moi encore, ça va, je vais trouver un autre poste, je suis fonctionnaire. Mais les gens qui sont dans le privé.
Bah merci de votre franchise, en tout cas, Nathalie.
Sûr,
et il y a beaucoup de gens qui sont comme vous. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne pourront pas assurer leur mission dans cette période-là.
Ben moi, je peux pas me mettre à la place des autres personnes, hein. Mais je veux dire, en télétravail, tout le monde sait bien ce que c'est le télétravail quand même. Il y a beaucoup plus de télé que de travail. Enfin, je veux dire, c'est la vérité.
Bon, merci en tout cas Nathalie, merci, parce que effectivement je précise que donc il y a le télétravail et puis parfois il y avait le chômage partiel, donc chômage partiel là les choses sont claires, les gens se mettaient en chômage partiel et c'était l'État qui payait, mais le télétravail a priori t'es forcé d'assumer le travail pour lequel on te paye. On va marquer une pause à 14h19, sauf si l'ami Greg a une petite chanson à nous proposer, peut-être.
Je peux vous proposer
Il venait d'avoir 18 ans,
c'est bien.
Il était beau comme un enfant, fort comme un homme.
Vous savez qui a écrit cette chanson?
Non.
C'est Pascal Sevran.
C'était l'été, évidemment.
Pour il a donné sa chance à cette chanson.
Ça, c'est magnifique, hein. Dalida. Elle est morte en 1987. Elle était jeune.
Un peu plus de noir sur
la pub.
Ça l'a fait rire.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va prendre Caroline, car Caroline est professeure de première et de terminale. Donc si les écoles sont fermées, oui, elle a sans doute un avis. Bonjour Caroline, vous êtes dans le Calvados.
Oui, bonjour, c'est ça, oui. Moi, je suis enseignante d'anglais en troisième, première et terminale. Oui, donc je vois le collège et le lycée. Bon, nous, dans notre lycée, on a eu la chance de pouvoir maintenir le lycée totalement ouvert. On a le nombre d'élèves qui correspondait. On a passé, vous savez, une semaine présentielle, une semaine distancielle. Et je pense que c'est vraiment une grande chance et que nos élèves apprécient beaucoup, beaucoup. Donc moi, j'espère vraiment, d'un point de vue personnel et pour les jeunes et pour les familles de ces jeunes, que on va rester ouvert. Je pense que si on respecte vraiment les règles sanitaires, si elles sont strictes, les élèves se lavent les mains en entrant dans chaque salle, ils se relavent les mains en partant de la salle, on fait un courant d'air, il fait très froid en ce moment, c'est pas grave, on se couvre. Les élèves désinfectent leur table après chaque heure de cours, je désinfecte mon bureau, etc. Les élèves ne mangent pas face à face, que les distances sont respectées et qu'ils respectent le masque, bien entendu. Je pense que vraiment, on devrait rester ouvert.
Concrètement, dans vos classes, combien d'élèves ont eu le Covid depuis
la rentrée? Moi, j'en ai pas eu. Moi, la rentrée de quand, vous voulez dire?
La rentrée scolaire de septembre.
De mémoire, j'ai eu deux élèves qui l'ont eu pas à l'école, hein.
Oui.
Qui l'ont eu par la famille, ou qui étaient que quatre contacts, je sais même plus.
Et vous avez combien d'élèves?
En tout?
Oui.
Je sais pas, moi j'ai une centaine d'élèves, mais en tout, toutes mes classes
d'accord.
mélangées.
Donc une centaine d'élèves, donc vous avez eu deux cas?
Oui, voilà. Et donc, c'est resté, enfin je veux dire, c'était pas du tout au sein de l'école ou quoi que ce soit.
Ben merci Caroline, donc, comme on est un peu en retard,
oui,
je vous remercie de ce témoignage et je comprends effectivement votre vœu. Et puis Laurent Tessier va nous faire le débrief à 14h24.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'était la question du jour aujourd'hui dans l'émission.
Est-ce qu'on est en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens?
A-t-on assisté à une guerre de génération au 32-10? Léonore, 22 ans, est étudiante. Elle a été la première à intervenir.
On a une vie à vivre. On a un moment où tout se construit socialement, intellectuellement. Sauf que là, on est tous démotivés par ce qui se passe. On est démoralisés. Ils ont déjà vécu leur vie, quoi, quelque part.
Réaction immédiate de Serge, 63 ans au standard.
C'est quoi un an de leur vie? Dites ça à quelqu'un qui a eu 15 ans ou 20 ans en 1940. Eux, on leur a volé 5 ans de leur vie. 5 ans! Est-ce qu'ils nous ont pété des câbles comme ça toutes les 5 minutes? Oh, ben, je suis en dépression parce que je peux pas aller en cours. Mais ça va, quoi. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout. Ils ont Internet. Ils ont leur bagnole pour aller en cours. La génération du tout de suite. C'est bon, c'est fini. Alors moi, je suis un vieux con, j'en ai rien à foutre.
Un débat qui a aussi énervé Jocelyne.
Merci d'être avec nous.
Oui, j'ai 72 ans, vous m'acceptez quand même.
Ah ben ça y est, vous allez me faire passer pour le racisme anti-vieux.
Non, pas anti-vieux. Moi, je suis pas vieille, j'ai 72 ans et je suis pas vieille. Et j'ai la chance d'avoir une bonne santé. Et puis là, on m'expédie carrément, j'ai l'impression depuis quelques temps qu'on m'expédie vers l'autre monde.
Vers l'infini et au-delà.
Et nous avons même eu le droit à une petite confidence.
J'ai fait tomber quelque chose l'autre jour. J'ai dit à un jeune, est-ce que ça vous ennuie de me ramasser ça? Ah, il m'a dit, les vieux, ils nous franchissent jusqu'au bout.
Bon, d'abord, c'est pas très intelligent et c'est
non.
même très bête.
Non.
Et vous, si vous draguez comme ça dans les supermarchés, c'est
ah non,
pas non plus.
Pas. Ah non, je... Ah, écoutez, j'étais mariée 50 ans avec un bipolaire. Je peux vous dire que ça m'a soignée du mariage. Hein.
Et il n'y a pas que Jocelyne qui s'est confiée aujourd'hui dans l'émission. Non, Pascal, vous êtes lancé à votre tour.
Je ne suis pas un habitué des maisons de retraite, cher Jocelyne, j'y vais assez peu. Parce que si vous vous draguez dans les supermarchés, non. Moi je ne drague pas dans les maisons de retraite.
Vous n'êtes pas un dragueur, mais aussi dans les auditeurs à la parole, nous avons des guests, des stars qui viennent dans le studio.
Monsieur Sportouche.
Ah, et bien voilà, vous m'avez réclamé.
Monsieur Sportouche, chef du service politique de RTL. Des informations peut-être exclusives dans les auditeurs ont la parole. Quand Emmanuel Macron prendra justement la parole, s'exprimera, quel confinement nous attend ?
Benjamin Sportouche, est-ce qu'on sait quand le président va-t-il parler ?
Écoutez, on ne sait pas.
Est-ce qu'on sait ce qu'il va dire ?
Eh bien, on ne sait pas.
École ?
Eh bien, pour les écoles, c'est ce qu'il y a. On ne sait pas non plus précisément.
Merci beaucoup, Pascal. Retournez-vous confiné à votre bureau.
Ça, c'était une belle interview dans les auditeurs à la parole merveilleuse. Et mesdames et messieurs, une histoire d'amour est peut-être en train de se créer, oui, sur RTL, entre Pascal Pro et Flavie Flamand. Souvenez-vous au dernier épisode.
La belle, charmante, délicieuse, intelligente Flavie Flamand est entrée dans ce bureau.
Je trouve que c'est peu, là. Vous pourriez être un petit peu plus... Lâchez-vous.
Elle est là, Flavie. Elle va être là dans deux secondes.
Bah dis donc, Pascal, un peu de romantisme quand même. Vous n'êtes pas un homme qui se laisse faire, on l'a compris, qui se laisse séduire facilement.
Vous voulez danser avec moi ?
Non.
Dégage.
Vous êtes dur avec Flavie, mais sa vengeance hier ne s'est pas fait attendre.
Vous êtes toute seule là aujourd'hui ?
Oui, bah oui, non, mais je suis avec vous, ça va pas durer longtemps,
bien
mais
sûr.
Allez, filez.
Histoire d'amour à suivre la semaine prochaine au prochain épisode. Et le débrief pour cette semaine, c'est terminé.
C'était
un choix
bien.
De destination pour le week-end ?
C'était très bien, vraiment, c'était très très bien. Je remercie Olivier qui était au standard, Pierre-Louis qui était au standard, Cyranouche qui était au standard. Il y avait Evan également au standard, vraiment, ils sont formidables. Et Flavie est en train de danser.
La danse du jour.
La danse du jour. A tout de suite.
Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été. Sur la grève.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.